Alors on me demande non seulement de faire la mitzvot, mais en plus de le faire de simcha. Il est possible que si je fais la mitzvah sans la faire de simcha, c'est parce que je ne suis pas sûr qu'elle est mienne. Je la fais parce que j'ai peur de ceci. Je la fais parce qu'il va m'arriver cela. Mais c'est pas betor sheli, ça n'est pas à moi. Ça n'est pas mon chemin. Alors c'est pas de simcha. Ça, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Si un jour il t'arrive du mal, tu sauras que c'est tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha de simcha ou betuv levav. C'est parce que tu n'as pas fait ça avec joie. La simcha procure une joie. La joie d'être dans le vrai. La joie de posséder quelque chose. Parce que en melavim l'adam, il n'y a rien qui puisse accompagner l'homme que la mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est la sienne. Tout le reste, c'est quelque chose qu'il a acquis et dont il sera obligé un jour de se débarrasser. Ça n'est pas à lui. Ça n'est que des choses qu'il utilise. La mitzvah, c'est un comportement. Le comportement, c'est le mien. Et ce que j'ai, on ne pourra jamais m'enlever. Et peut-être la raison pour laquelle nous ne sommes pas de simcha, c'est parce que nous ne savons pas ce que c'est la simcha. Parce que nous nous croyons et nous mélangeons entre la simcha et le oneg. Mais si nous sommes sûrs du fait que la simcha ce n'est pas cela, alors peut-être que nous allons remarquer que souvent nous sommes oui de simcha. Et nous sommes plus que nous croyons. Au moment où quelqu'un fait une mitzvah, au moment où il le fait parce qu'il est sûr que c'est son chemin, au moment où quelqu'un fait selon ce que lui appelle le bien, ça c'est la simcha, ça c'est la joie. Tout le reste c'est des ersatz pour être rassasié et pour arriver à la simcha, mais c'est pas la simcha. Et comment est-ce qu'on va voir maintenant ça? Si lorsque je me livre à ce que j'ai besoin, à ce que j'ai envie, à ce que je recherche dans la vie, une fois l'avoir fait, je n'ai pas de simcha, je n'en suis pas heureux parce que j'ai envie de le refaire de nouveau. Et que je n'ai comblé qu'un manque, là, cette action-là, elle ne peut pas aboutir à la simcha. Ni si ce que j'ai fait, ça n'est pas pour combler un manque. C'est une conduite que j'ai choisie. Parce que un jour, dans une donnée déterminée, j'ai pensé que je ne suis plus libre. Que c'est comme ça qu'il faut agir. Alors là, je suis de simcha. Et c'est comme ça qu'on va savoir. Quels sont les actes qui me procurent une simcha et quels sont ceux qui m'en procurent pas. Et peut-être je pourrais revenir à ce qui existait dans le peuple juif auparavant qu'on est en train d'oublier. C'est d'avoir des joies que l'on tire de soi-même et pas des autres, et pas des objets, et pas de ceux dont on sera saisi. Aujourd'hui, on ne tire de joie que de ce qui est extérieur. Si je fais une fête, sans ceci, sans cela, je n'ai pas de joie. Ça, c'est le tannouk, c'est pour arriver à la joie. Mais la joie, on la tire de soi-même. La joie, on la tire de ce que l'on ressent qu'on est de torcher l'eau. On est là où il faut. Alors là, peut-être qu'on va commencer à apprécier le fait qu'il y a beaucoup de joie. Et nous ne les apprécions pas, et pour nous, elles ne nous donnent pas de joie, parce qu'on les assimile aux autres. On assimile la mitzvah à quelque chose dont on tirerait un profit. On assimile la mitzvah comme quelque chose d'extérieur. Mais si on faisait vraiment nos comptes, et on voyait que lorsque je fais quelque chose que je juge qu'il faut faire, lorsque je suis rentré dans un chemin, lorsque moi j'ai choisi déjà quelque chose, je ne suis plus libre, j'ai choisi, et je voyais qui je suis à ce moment-là, peut-être que je serais de simcha. Pour terminer, je vais vous dire juste, je vous raconte une histoire qui m'est arrivée cette semaine. Il y a à Paris, un vieux rabbin qui s'appelle Rav Kadouri. Rav Kadouri est un homme de plus de 90 ans. Et ce qu'il a de particulier, à mon avis, c'est que vous lui racontez les plus grands malheurs du monde. Les plus grands malheurs du monde. Il vous donne une bracha et il éclate de rire. Alors au commencement, on pense que c'est un peu incongru. Seulement on se rend compte qu'il n'éclate pas de rire seulement lorsqu'on lui raconte les malheurs. On vient, on lui dit bonjour et il éclate de rire. Il est tout heureux. C'est vrai que c'est rare des gens comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont rares. Mais enfin, on ne trouve pas souvent des gens à qui on demande l'heure. et qui sont tout heureux de vous donner l'heure, ils sourient, ils sont béats de vous avoir donné l'heure. D'où est-ce que cela vient? À mon avis, cela vient de ça. Quelqu'un qui est sûr de son chemin, quoi qu'il rencontre sur son chemin, qui il rencontre sur son chemin, quel que soit l'événement, c'est son chemin, lui, c'est sa vie. Et il est joyeux de l'être. Il est joyeux de la vivre. Il est joyeux de la vivre de cette façon. Il doit être Hachem de Simcha. Lorsque quelqu'un prie, demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il a besoin de quelque chose, c'est sérieux. Il ébéira, il est dans la crainte de Dieu. Mais en ce moment-là, il peut être de Simcha, il peut être joyeux même. Pourquoi il est joyeux? Parce qu'il sait que c'est comme ça que ça marche, et il sait qu'il est dans le vrai. Chaque fois que je pense être dans le vrai, dans quelque chose, je peux être joyeux.
Je crois qu'on va passer une série de questions.
Pensez-vous que c'est dans l'adversité que l'homme progresse?
D'accord. Deuxième question.
Comment peut-on être sûr de son chemin?
Oui.
On dit effectivement d'être joyeux, il faut avoir des certitudes. Pas avoir des certitudes, c'est ne pas avoir de doute. Ne pas avoir de doute, c'est avoir un être. Alors effectivement, est-ce qu'avoir un être est suffisant pour être joyeux?
Pour être joyeux, c'est la certitude de ne pas avoir de doute, et avoir de doute, c'est avoir un maître, est-ce que c'est suffisant d'avoir un maître? Oui!
Quelqu'un relate le fait que les rabbanim se mettaient à pleurer sur leur lit de mort, parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir fait assez de mitzvot durant leur vie, parce qu'ils n'allaient tout simplement plus pouvoir en faire. Cela s'appelle la simcha, ou le ta'anug.
Oui. D'autres questions? Oui.
Tout à l'heure, vous avez dit aussi pour Shabbat que vous pouvez jeûner, donc il y avait la joie ou pas. Il a dit que dans Kippour, ce n'était pas du régime. Alors, lorsqu'on dit que Shabbat, Shabbat, c'est le
régime. D'accord, on répond.
Ok. Kippour par rapport à Shabbat, d'accord.
Parce... Hein?
On va répéter. Kippour par rapport à Shabbat, Shabbat on peut jeûner, Kippour on peut pas, mais comment se fait-il, puisque Kippour c'est Shabbat, Shabbaton. J'ai deux questions à poser au Ravenal. La première, vous avez dit qu'il faut être sûr de son choix. Il y en a qui sont très sûrs de leur choix, mais pour manger du jambon, on peut faire des choses strictement hors de la Torah. Pourtant ils sont sûrs, ils se disent sûrs. Et vous avez dit qu'on ne vote pas pour quelqu'un qui ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite, mais s'il a choisi un chemin, il est sûr de lui, mais dans le mauvais chemin. Que doit-on en penser? Et la deuxième question, un rave m'a raconté un jour qu'on mettait les dames en haut dans les synagogues, on les séparait des hommes, parce que c'était une très vieille histoire, parce qu'on dit qu'à la fin de Sukkot, il y avait la fête de Beth Hashoeva, et celui qui n'a pas connu et goûté à cette fête, ne sait pas ce que c'est que la joie dans le monde et dans ce monde-là. Alors la question est la suivante, parce qu'on nous dit qu'à l'époque de la fête de Beth Hashoeva, les hommes et les femmes étaient mélangés, c'était pas bien. Alors on a séparé les hommes des femmes, les hommes étaient devant, les femmes derrière, mais les premières femmes et les derniers hommes, il y avait aussi des choses pas bien qui se faisaient. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'il fallait totalement séparer. La question que je vous pose, Rav Emal, c'est que le Yetzer Hara, dans cette époque où c'était le temple, où c'était la Gdoucha totale, il tombait et les juifs fautaient. Que doit-on penser aujourd'hui du juif qui faute quand il n'a rien de tout ça, quand il n'a pas cette armature et ce bouclier qui est toute la Gdoucha de l'époque?
Bon. Alors on va essayer de répondre au fur et à mesure. Je pense qu'il y a une cassette que M. Gruner a enregistrée qui s'appelle Les malheurs et le peuple juif. Non seulement la Torah pense que l'on grandit dans l'adversité, mais la Torah pense que s'il n'y a pas de Nissan, il n'y a pas d'épreuve, on ne peut pas grandir. On va essayer d'expliquer pourquoi et comment ça se passe. En vitesse, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois de ça. Si quelqu'un vient me demande, est-ce que je suis capable de sauter, disons, 2 mètres, 2 mètres 50, si je n'ai pas essayé, je ne pourrai jamais savoir de quoi je suis capable. Et donc, lorsque quelqu'un ne sait pas de quoi il est capable, pour l'instant, il est incapable. Pour arriver à des performances, on est obligé de se fatiguer. Il est obligatoire que cela soit dur. Pourquoi? Parce que d'arriver à des limites, ça n'est seulement que lorsque l'on pousse vers les limites. Et la nature de l'homme, au contraire, le pousserait à ne pas chercher ces limites-là, mais simplement à se nourrir de ce qu'il trouve. On va donner un exemple très simple. Il y a une fois un rabbi dans la Gemara qui disait « Regardez comme je suis mieux loti que Adam Arishon. » Adam, le premier homme. Il était pourtant dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Mais pour manger, il fallait qu'il sème. Il fallait d'abord qu'il laboure. Il fallait en plus qu'il récolte. Pour s'habiller, il fallait qu'il connaisse 5 métiers. Pour faire des chaussures, un 6e. Il dit, moi, j'ai tout ça à ma disposition. Il y a un tailleur qui travaille pour moi. Il y a un cordonnier qui travaille pour moi. Il y a un paysan qui travaille pour moi. Et moi, je fais un petit peu de commerce. Le paysan, il a le cordonnier qui travaille pour lui. Moi qui lui fournis ce dont il a besoin. On s'en sort beaucoup plus facilement qu'Adam Arishon. Non seulement ça veut dire qu'on ne progresse pas s'il n'y a pas d'adversité, mais en plus ça veut dire que sans effort, et l'effort, malheureusement, et ça on ne va pas revenir, pourquoi est-ce que le bon Dieu a-t-il créé le monde comme ça, mais malheureusement l'effort, il n'est demandé dans son expression la plus grande que dans l'adversité. Je n'ai pas besoin de faire d'immenses efforts lorsque tout va bien. Parce que la définition de ce que tout va bien, c'est justement que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. On n'a jamais vu quelqu'un qui rentre du bureau le soir après 12 heures de travail et qui pense que tout va bien. Au contraire, il pense qu'il a dû faire un effort extrême. Pour lui, c'est ça l'adversité. On n'obtient rien sans se dépasser. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Et lorsque je ne sais pas de quoi je suis capable, je suis incapable. Et de plus, sans entraînement, c'est-à-dire sans effort, je suis effectivement incapable. La différence entre celui qui arrive à franchir 100 mètres en quelques secondes et moi, c'est qu'il a travaillé des jours et qu'il a transpiré alors que moi je ne l'ai pas fait. Il est donc capable de quelque chose duquel je suis incapable. Pourquoi est-ce que cela passe par l'effort? Justement parce que de même qu'un muscle, il faut le faire travailler pour qu'il puisse donner toute sa mesure. De même un homme, il faut le faire pour qu'il puisse progresser. Il faut qu'il puisse franchir quelque chose. Et ce franchissement-là, c'est un peu de l'adversité. Il y a des gens, mais ils sont rares, chez qui non seulement ils se révèlent dans l'adversité, mais en plus, lorsqu'il n'y a pas quelque chose de haut qu'on leur demande, ils sont totalement nuls. Il y a des gens qui ne se révèlent que au moment où on leur demande un immense effort. Et même les petits efforts, ça ne les fait pas se révéler. Mais la majorité des gens vont progressivement, plus l'effort qui est demandé est grand, plus ils révèlent de leur capacité, et donc plus ils sont capables. Parce que celui qui n'a rien révélé, il est incapable. On va dire même pire, la seule façon de savoir comment s'est passée la vie d'un homme, c'est de regarder sa mort. Comment se conduit-il au moment où il sait qu'il va mourir? Celui qui appelle sa maman, on se rend compte à quel stade il en est. On se rend compte avec quelle figure il a parcouru les 85 ans auxquels il est en train d'arriver. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le problème de savoir quand est-ce qu'on est sûr, quand on n'est pas sûr. Alors là, il faut savoir que la simcha est relative. Il y a, et tout homme a, ce que l'on appelle une conscience. Tout homme a chez lui des choses dont il est sûr qu'elles sont bonnes et d'autres dont il est sûr qu'elles sont mauvaises. On va essayer d'expliquer un peu. On a dit tout à l'heure que de devenir quelqu'un, c'était de s'enlever des choix. Seulement, on est obligé de diviser en trois parties. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas libre du tout. Par exemple, quelqu'un me dit, tu vois, Rabbi Akiva, les Romains sont venus. Il nous dit la Gemara, ils ont pris des peignes en fer et ils ont arraché des chairs avec. Et lui, il souriait. Il souriait parce que il était joyeux ce jour-là. Parce qu'il a dit, Matai tavo mitzvah azot liyadi vakaimena. Quand est-ce que viendra cette mitzvah-là et que je puisse l'accomplir? C'est-à-dire de mourir parce que l'on ne veut pas se renier. Il était joyeux, Rabbi Akiva. Cette joie-là, je sais, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je sais qu'elle est exclue pour moi. J'en suis pas capable. On a donné l'exemple de celui, sa joie la plus grande, c'est de prendre les sacs à main aux vieilles dames. Ça, je sais, je peux vous l'affirmer, vous pouvez me faire confiance, c'est pas pour moi. Je n'ai pas de choix là-dedans. J'ai déterminé une fois pour toutes, je ne le ferai pas. Ça veut dire que, et en haut et en bas, il y a des choses dont je pense que je n'ai pas de liberté. Pourquoi? Parce que c'est les problèmes que j'ai résolus une fois pour toutes. Les uns négativement, les autres positivement. Mais il y a toute une masse de problèmes que je n'ai pas résolus. Et dans ces problèmes-là, je suis libre. Un homme, une vie, c'est de pouvoir un jour se présenter devant Akadosh Baruch Hu et de lui montrer qui il est. Pas devant quel choix est-il placé, mais qui il est. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'espace vide au milieu. Tous les problèmes sont résolus, ou en haut ou en bas. Il est à espérer que la barre, elle ne soit pas vers le bas, mais elle soit vers le haut. Mais c'est ça le but de la vie. C'est d'être quelqu'un. On est quelqu'un lorsqu'on s'est déterminé par rapport au choix qui était possible. Mais on n'est jamais sûr. C'est vrai qu'on n'est jamais sûr. Et on va vous raconter une histoire. Il y a un jour un rave qui s'appelait Rav Yitzhak Elchanan Spector. C'était le décisionnaire de la génération d'entre 1840 et 1880. Et un jour, il a raconté cette histoire. Il a dit que il a rêvé une nuit. Il est arrivé devant le tribunal du Ribbono Shel Olam, devant le maître du monde. Et on lui a montré ses mitzvot, ce qu'il avait fait de bien, on lui a montré ce qu'il avait fait de mal. Et on lui a montré qu'entre les choses qu'il avait fait de mal, il avait tué. Alors là, il s'est rebellé, il a dit non, ça, je suis sûr que je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais tué personne. Alors on lui a dit, viens, on va chercher celui que tu as tué. Et il a vu un monsieur qui le ressemblait étrangement. Un peu plus grand que lui, un peu plus érudit que lui, un peu meilleur que lui. Et on a demandé comment tu t'appelles, il a dit Yitzhak Elchanan Spector. Il a dit c'était moi en mieux. Et on lui a dit c'est celui-ci que tu as tué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelquefois je peux penser que mes choix, ou plutôt les choix dont je pense qu'ils sont exclus pour moi, en vérité, j'en suis peut-être capable. Et la seule raison pour laquelle je les ai exclus, c'est parce que je me sentais incapable. La simcha la plus forte, c'est lorsque quelqu'un est sûr d'être arrivé au maximum dans une chose. Il y a des choses dont on est sûr qu'elles sont bien, et dont on est sûr qu'on est au maximum. Ça, c'est la simcha. Il est vrai qu'à la fin de sa vie, quelqu'un peut faire le compte et se dire « Mais peut-être j'ai tué celui que j'aurais pu être. » Et toute la simcha que j'ai eue, on va me montrer qu'elle a été très banale parce que j'aurais pu en avoir une beaucoup plus grande. C'est possible. Là-dedans, il y a l'incertitude. De savoir jusque où peut-on aller, là on a une certaine incertitude. Mais qu'il y a des actions dont on est sûr qu'elles sont bonnes et d'autres dont on est sûr qu'elles sont mauvaises. Parce que automatiquement un homme s'aliène des choix. Automatiquement, un homme est obligé de vivre. Donc, obligatoirement, un jour, il a décidé qu'il y a des choses qui sont au-dessus de lui, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont en dessous de lui.
Et là, on va arriver à l'histoire du maître. Le maître, vous savez qu'il est déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres. Ça veut dire que c'est une référence. Mais il faut juger la référence. Et pour ça, un homme est libre. Et s'il est libre, c'est qu'il est capable de juger. Chacun choisit son maître. Il est possible que quelquefois j'hésite et me dise, il y a mieux que celui-là. Ça, ça n'est pas l'étalon, on peut trouver mieux. D'accord. Alors je suis obligé d'aller chez l'autre. Et il n'existe pas qu'il n'y ait pas quelque chose que je puisse recevoir et de l'un ou de l'autre. Ça veut dire que le problème de l'incertitude, c'est un faux problème. Pourquoi ? Parce que la recherche de la vérité, elle procure autant de simcha que le fait de l'avoir découverte. Parce qu'il y a une certitude que je peux avoir, c'est que je suis à la recherche de la vérité. Et cette simcha-là, c'est aussi la mienne. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être sûr d'avoir trouvé. Mais on est obligé d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir trouvé. Et c'est ça ce qui compte. Pourquoi ? Parce que peut-être je ne sais pas de quoi je suis capable. Je ne sais pas quelle est la vérité absolue. Mais ce que j'ai recherché, ce que j'ai trouvé, et il n'existe personne qui recherche et qui ne trouve pas certaines vérités dont il est sûr, dans celle-ci, il existe la simcha. C'est vrai, et c'est pour ça que la Gemara dit, il n'y a de vrai simcha que dans l'Olam Haba, dans le monde futur, là où il n'y aura que des certitudes. Mais de dire que lorsque je me déplace, peut-être même le fait de me déplacer, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, ça c'est faux. Le fait de rechercher quelque chose, et de le rechercher de toutes ses forces, ça c'est aussi une vérité. Et l'incertitude, si vous faites les comptes, dont, selon on est sûr que c'est mal, on n'a pas beaucoup d'incertitude. Je vous donne un exemple. Un jour, quelqu'un est venu chez moi et m'a dit, moi je ne suis pas sûr que la Torah est vraie. Bon. Il dit, par exemple, je fais le Shabbat, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai. Donc j'ai un vrai problème. Alors je lui ai demandé, mais si c'est faux, alors là, tu as fait l'imbécile, tu as fait quelque chose de mal, tu as détruit tout le monde, tu as embêté tout le monde. Ce qu'il devrait y avoir de sûr chez l'homme, c'est qu'il y a des actions qui ne peuvent pas être mal. Elles peuvent ne pas être vraies, mais mal elles ne peuvent pas être. D'être sûr que je suis dans le bien, je suis sûr que je ne suis pas dans le mal. Ce qu'il est possible, c'est qu'il y a d'autres vérités encore que je ne perçois pas, et c'est à moi de les rechercher. Mais de dire que quelqu'un qui n'est pas sûr que la Torah a été donnée au Sinaï, et de mettre les tefilines, c'est quelque chose de mal, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a une limite au doute. Et non seulement il y a une limite au doute, mais il faut savoir une chose. C'est que de douter ou de ne pas douter, c'est une question de volonté et non pas une question de raisonnement. Là, je ne voudrais pas m'engager dans ce débat, mais je suis sûr de cela. Et pour une raison très simple. Il n'y a rien qui n'obéisse pas à la volonté. Rien. Pour la bonne raison. Que la seule chose qui est illimitée chez l'homme, c'est la volonté. Ce qu'on appelle le Ein Sofi. C'est une chose qui n'a pas de limite, c'est la volonté. Tout le reste, les raisonnements, l'intellectualisme, la logique, toutes ces choses-là ont une limite. La seule chose qui n'a pas de limite chez l'homme, c'est la volonté. C'est-à-dire que l'homme ne croit que dans ce qu'il a envie de croire, n'est sûr que dans ce qu'il a envie d'être sûr. C'est-à-dire que c'est facile de rester dans le doute parce qu'on a envie de rester dans le doute. Mais si on n'avait pas envie de rester dans le doute, peut-être qu'on ne serait pas dans le doute. Ça veut dire qu'il n'y a rien, ça il faut le savoir. On ne peut pas s'engager maintenant dans un débat philosophique là-dessus, mais il n'y a rien qui ne soit soumis à la volonté, parce que la seule chose d'illimité qui ne vienne pas de l'homme, c'est sa volonté. Ça c'est une chose qu'il faut savoir. Je passerai l'histoire du Yom Kippour, c'est très simple. Vous savez que Shabbat Shabbaton ne veut pas dire que puisqu'il faut faire un kiddush le Shabbat, il faut en faire deux Yom Kippour, et puisqu'il faut manger deux chalot le Shabbat, il faut manger quatre Yom Kippour. Shabbat Shabbaton veut dire que les interdictions, les melachot négatives, c'est-à-dire la façon de respecter le Shabbat, elle est la même que celle du Yom Kippour. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Shabbaton. Mais le fait de consacrer le Shabbat par une bonne nourriture, le Onel Shabbat, c'est une chose qui n'existe pas à Yom Kippour.
Vous savez que le Rav Eman termine quand même sur une réponse à une question importante. Vous avez dit que quand on n'est pas marié, il n'y a pas de joie. Je sais que le cours de ce soir, ce n'est pas sur le mariage, mais c'est sur la joie. Est-ce que le célibataire qu'ils sont, enfin les célibataires qu'ils sont en face de vous ou de nous, est-ce qu'ils maîtrisent cette responsabilité de l'être ou de ne pas être donc marié ou célibataire et d'avoir ou ne pas avoir cette joie? Est-ce que c'est entre les mains de l'homme ou entre les mains de Dieu? Est-ce que c'est un choix de l'homme? Donc, la question était très sérieuse, hein, c'était pas pour plaisanter.
Alors, non seulement c'est une très sérieuse question, mais c'est une bonne question, c'est vrai. Il faut savoir une chose. Là, il faut être très clair. Cela ne dépend uniquement que de l'homme. Seulement, et là, on va diviser la question en deux. Ça dépend de deux hommes, pas d'un. C'est-à-dire que même si moi, j'ai trouvé l'âme sœur, mais elle n'a peut-être pas trouvé l'âme frère. C'est là où c'est difficile. Mais lorsque c'est le contraire, ça dépend que de moi. C'est-à-dire, je rencontre une jeune fille et elle veut se marier avec moi. Ça ne dépend pas de moi. Que je veuille ou que je ne veuille pas, cela ne dépend pas du bon Dieu, ça dépend de moi. Uniquement de moi. Ça veut dire que celui qui est célibataire, on ne peut pas parler de statistiques, majorité, pas majorité, on ne sait pas combien. Souvent, très souvent, c'est qu'il ne veut pas les occasions qui lui sont offertes. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, quelqu'un est allé chez le stapler, vous avez peut-être entendu parler de lui. Quelqu'un est allé chez le stapler, il lui a dit, ça va pas là chez moi, je suis à mon 40e shidour. Présentation. Il dit, le bon Dieu, il m'en fait voir 40, c'est dur. Il dit, alors où est-ce qu'il est mon zivoug? C'est laquelle la mienne? Où est-ce que, comment je vais la trouver? Il a rigolé, il lui a dit, mais c'était la deuxième. Il lui dit, pourquoi la deuxième? Il dit, je crois que le bon Dieu est en prison de 40, il n'a rien à faire. Une, deux, c'est trois. Ça y est, ça suffit. C'est toi qui n'as pas voulu de la deuxième. Et c'est vrai que c'est pas moi qui ai voulu de la deuxième. Il dit, pourquoi tu parles du bon Dieu? Voilà le problème. Il y a une obligation de la Torah. Et on va essayer de relier ça à notre problème de la Simcha. Il y a marqué qu'un homme, lorsqu'il se marie, il est samach et ishto, mais c'est valable aussi pour les femmes, il doit réjouir sa femme. Ça veut dire réjouir. Il doit lui donner sa place. On a dit, qu'est-ce que c'est la simcha? C'est d'avoir une place. Une femme, elle doit donner sa place à son mari. Se marier, c'est de donner quelque chose à l'autre. Alors là, on ne comprend plus pourquoi les gens sont tellement difficiles. On se dit, tu sais, tu peux donner à celle-ci. Ah non, je ne veux pas donner à celle-ci. Non, d'accord. Pourquoi elle ne mérite pas? Alors une deuxième, elle ne mérite pas. La 40e, elle ne mérite pas. C'est bizarre. Son mari a fait le compte autrement. Il a dit, je ne veux pas prendre de celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il n'y a pas grand-chose à prendre. L'obligation de la Torah avait Simach et Tishto. Lui n'a aucune obligation d'être joyeux avec sa femme. C'est l'obligation de l'autre. Seulement lui juge que l'autre n'est pas capable de le rendre heureux. Pourquoi? Parce qu'il en veut toujours plus. Et de toute façon, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se décider avant le mariage. Et ceux qui n'arrivent pas à se décider avant le mariage, souvent, même après le mariage, ils ne sont toujours pas décidés. Et ça, c'est assez embêtant, ça. Parce que c'est pas parce qu'il a passé la bague au doigt à une qu'il ne peut plus se décider pour les autres. Et s'il le fait par obligation, parce qu'on ne peut plus revenir là-dessus, ou parce qu'on s'est engagé, tout ça, c'est embêtant. Normalement, lorsque j'ai quelqu'un à qui faire plaisir, je ne cherche pas de deuxième. si vraiment quelqu'un a tellement de choses à donner qu'une fois ne suffit pas, la Torah lui permet de prendre une deuxième. C'est ça le problème. Tout le problème est là. Le problème de savoir quelles sont ses exigences. C'est ce qu'il est venu le Zohar nous dire. Il y a des exigences et on doit savoir de quel côté elles viennent. Le tout est de savoir quelles exigences on a. Et selon les exigences, on arrive à la simcha. Le problème d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un grave problème. Pas plus tard que hier soir, une jeune fille est venue et m'a dit, il y a beaucoup de garçons juifs qui ne veulent pas se marier avec des filles juives. Pourquoi? Parce qu'elles leur rappellent leur mère. Évidemment, une goya, ça ne lui rappelle pas de mauvais souvenirs. Évidemment. Alors, c'est ça le problème. Le problème est de savoir. Un homme doit d'abord décider où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut et quelles sont ses exigences. Et on va peut-être même aller plus loin, puisque l'heure n'est pas passée. Il y a une Gemara dans le traité de Nedarim et dans le traité de Nazir. La Gemara raconte ceci. Un jour, il y avait un homme qui est venu chez Rabbi Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et il a voulu amener le sacrifice de Nazir. Nazir, vous savez ce que c'est? Nazir, c'est celui qui s'interdit le vin, qui s'oblige à se laisser pousser les cheveux, et qui, le jour où son naziré a terminé, doit se raser la tête. Shimon HaTzadik l'a vu, cet homme. Il a vu que c'était un homme qui était beau, dont les cheveux faisaient de belles boucles. Et il lui a dit, qu'est-ce qui t'a décidé de détruire une aussi belle chevelure? Il est venu le raconter, il lui a dit, Roé Haïti et Tsel Ababiri. J'étais berger du troupeau de mon père. Et un jour, je suis allé à la source. Et il a vu, Venis Takalti Bebou Acheli. Je me suis vu dans la source. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de lave. Oumiyad Pachazala Yitri. Ou Bikesh le Tordeni Naolam. Mon Yitzera, mon mauvais penchant, s'est affolé. Et il a voulu le Tordeni Naolam Otamo, ça veut dire me faire faire des actes que je n'aurais jamais fait. À ce moment-là, j'ai décidé d'être nazir et de couper cette chevelure. Rabbi Shimon HaTzadik lui a dit, Kamocha Yirbu Nozre Nezirot B'Israël. C'est comme ça qu'on doit être nazir. Tout le problème est simple. En quoi le fait de se regarder dans une glace fait qu'on se permet des choses qu'on ne se serait pas permis si on ne s'était pas regardé? C'est difficile à comprendre. Se regarder dans une glace, alors. Une fois qu'on a répondu à cette question, on a dit ceci. Je ne suis pas sûr de la réponse, pas une certitude, mais on peut essayer. Lorsque je me regarde avec mon propre regard, je n'ai d'exigence que ce qui rentre dans mes critères. Lorsque je me regarde avec le regard des autres, je commence à avoir des exigences qui répondent aux critères des autres. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, sachez que c'est une halakha, ça peut toujours servir. Une loi. C'est inscrit dans le Shulchan Aruch. Qu'une femme, elle peut se regarder dans la glace pour voir comment elle est arrangée, comment elle doit s'arranger, mais un homme, non. Ça veut dire que je ne dois pas me regarder avec le regard des autres. Parce que lorsque je me regarde avec le regard des autres, j'ai des exigences folles. Toutes celles que les autres sont prêts à satisfaire, mais qui n'étaient pas les miennes. Je vais commencer à marchander ce que j'ai. Pourquoi? Parce que les autres sont prêts à payer pour ça. Il y en a qui vont très loin et qui ne sont jamais satisfaits de ce que les autres voient chez eux. Alors ils demandent aux autres comment ils doivent être. Et ils vont chez un chirurgien esthétique et ils vivent la vie des autres. C'est ça le problème. Quelqu'un ne veut pas se marier parce qu'il a des exigences. Personne ne pourra jamais le satisfaire. Qui c'est qui lui a donné ses exigences? C'est sa glace. C'est le regard des autres qui lui a dit, tu as droit à ceci, puisque tu es beau. Tu as droit à ceci, puisque tu es intelligent. Tu as droit à ceci, puisque tu... Voilà. Mais si quelqu'un se regarde avec son propre regard, les exigences, elles vont baisser énormément. Et ça, c'est un grand problème. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ne pèsent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se marier parce que ils plaisent beaucoup, mais personne ne leur plaît. C'est ça le problème. Si les gens liquidaient toute cette partie de la population, je ne veux pas dire qu'il restait plus grand monde à Barkhanouk, parce qu'on vient pour les conférences, mais quand même, on aurait résolu une partie de ce qui n'était pas un problème, mais ce qui est une réalité. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est un peu plus complexe. C'est vrai que le zivouk, c'est vrai que le mariage, c'est mina shamayim. Seulement, comme je ne sais pas ce que le bon Dieu a décidé pour moi, le mieux, c'est de ne pas compter avec lui, mais de compter sur moi. Et pour terminer, on va raconter une dernière histoire.
Pourquoi pas la femme?
La même chose, la femme.
Non, mais pour se voir à la glace, la femme...
Se voir à la glace, c'est autre chose. On va mettre toutes les choses au point. La différence entre un homme et une femme, vous connaissez toutes, il y a beaucoup de différences, mais c'est déterminé dans la Torah par les mots. Parce que vous savez que la façon dont on appelle les choses dans la Torah, ça détermine la nature des choses. Un homme s'appelle Ben. Ben vient du langage binyan, construire. Une femme s'appelle Bat, ça vient du mot Baït. C'est le même mot que Baït, veut dire un cadre. Quelqu'un qui doit vivre dans un cadre préfère que ce cadre soit agréable. C'est normal. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah pour la femme de se faire belle pour son mari. Je dis tout de suite qu'il y a une restriction pour son mari, pas pour les autres. Parce que vous savez qu'une maison, on la fait belle de l'intérieur, mais il est rare que vous puissiez aller dans Paris, vous trouviez des maisons avec du papier peint à l'extérieur. C'est rare. Et si quelqu'un faisait ça, on dirait qu'il n'a rien compris. Et Baït, ça veut dire qu'il faut être beau à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça n'est plus le problème. Malheureusement, aujourd'hui, on voit souvent le contraire. C'est qu'on se fait belle pour sortir. Baït, dans la Torah, c'est le contraire. Ici, notre objet n'est pas de voir quelle est la avoda, c'est-à-dire ce que Dieu demande à un homme et à une femme, quelle est la différence. Mais grosso modo, c'est ça. Ça veut dire qu'une femme, c'est un baït, c'est un cadre. Alors qu'un homme, c'est un bonnet. C'est quelqu'un qui produit. De la façon dont eux enfantent, on le retrouve dans la nature même des choses. Qu'un homme produit et une femme est un cadre. C'est la raison pour laquelle une femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants, parce qu'elle peut en avoir malgré elle. Et il n'y a de mitzvah que dans une chose que je contrôle. Si on ne veut pas, je ne peux pas commencer à parler de tout ce sujet-là, c'est un sujet qui est vaste. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir. On va quand même raconter cette dernière histoire. Il s'agit du Saba Minovardok. Quelqu'un n'a pas entendu parler de lui, il y avait un homme qui a décidé, pour des raisons qui lui étaient propres, et qu'on ne peut pas élaborer ici, enfin on va le dire quand même. C'était un homme dont la femme est morte en couche et qui lui a laissé 8 enfants. Et après la mort de sa femme, il a commencé à s'occuper de ses enfants. Il a remarqué qu'il ne s'occupait pas de ses enfants pour eux, mais pour lui. Parce que le plaisir que lui procuraient ses enfants, c'était son plaisir. Il investissait donc dans ses enfants. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont normales et naturelles. Mais à ce moment-là, il y a une centaine d'années, il y avait des gens qui contrôlaient ce genre de choses. C'est-à-dire que les enfants devaient les avoir pour eux et pas pour soi. Et il s'est rendu compte que lorsqu'il embrassait ses enfants, c'est parce que ça lui faisait plaisir. Mais pas pour leur faire plaisir à eux. Comme la plupart des gens aujourd'hui. Il a décidé de mettre fin à ce système-là. Et de pouvoir regarder l'autre, le Shem Shamayim. Ça veut dire de faire du bien à l'autre pour l'autre, pas pour soi. Il a décidé d'aller loin, de s'enfermer dans une chambre, d'étudier la Torah, et de ne pas en sortir, jusqu'à ce qu'il ait réglé ses comptes avec lui-même. Il est resté pendant 7 ans comme ça. Il n'est pas sorti. Jamais. Il avait comme voisin un ferblantier. Et qu'est-ce qu'il a fait sortir de cette maison-là? Un jour, il a entendu des pleurs. Il y avait la fille de ce ferblantier qui pleurait, qui hurlait. Et les parents qui pleuraient avec elle. Il est sorti, il a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a dit, c'est très simple, notre fille était fiancée. À ce moment-là, les gens étaient tellement pauvres qu'on exigeait des parents quelque chose pour pouvoir se marier. Et les parents du fiancé avaient donné ce qu'eux devaient donner. Et eux, se fermant, ils étaient tellement pauvres qu'ils n'étaient pas capables de réunir la dot. Donc, le khatan avait rompu les fiançailles. Et cette fille était plus très jeune, ce qu'elle devait quand même avoir dans les 23 ans ou 22 ans. C'était à peu près les critères de l'époque. Et les parents se désolaient parce qu'une fille, une vieille fille, qui en plus a rompu les fiançailles, alors là, pour la marier, ça va être très difficile. Et alors le Saba Minovadok, il n'avait jamais vu la fille. Il a dit à son père, mais moi j'ai un khatan. Il a dit, ah bon, tu vas trouver un fiancé pour cette fille? Il dit, oui, si elle veut bien, j'en ai un. Seulement, il faut lui dire une chose. Il n'est plus très jeune, il va avoir 40 ans. Il n'a pas une parnassa formidable parce qu'il étudie la Torah. Il n'a pas voulu lui dire qu'il était connu dans le monde entier. Et il lui a dit si elle est d'accord de se marier avec un Tamid Raham, qui a 40 ans, et qui a 8 enfants. Aujourd'hui, on dirait, mais ils sont à sa charge ou pas à sa charge? Alors, si elle est d'accord, je vais lui présenter. Ils sont allés chez la jeune fille, ils ont demandé, elle a dit qu'elle est d'accord. Mais elle veut le voir avant. La proposition lui plaît. Alors il a dit, c'est moi. C'est la mère qui est tombée évanouie, la fille qui est tombée à l'envers. Il a dit, mais c'est pas possible. Il était connu comme un des goléadors, les grands de la génération. Il a dit, quoi, tu vas prendre la fille d'un fermentier? Il a dit, pourquoi? Elle n'est pas cachère, elle n'est pas... Qu'est-ce qu'elle a? Alors ils ont emmené la fiancée. Il avait déjà décidé avant. Ce qu'il a dû voir, on n'a pas dû le repousser trop. Il a maintenu. Et il s'est marié. Ça, c'est l'histoire du Saba Minovadok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a décidé de rendre heureux quelqu'un, les candidats ne sont pas difficiles à trouver. Celui qui a décidé de choisir celui qui le ou celle